Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, au moins 523 cas d'attaques diverses contre la presse, dont 5 journalistes tués, près de 160 cas d'arrestations et autres menaces ou de violences physiques contre les journalistes. Sur le bilan dressé par l'ONG Journalistes en danger depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, à l'occasion de la célébration ce jeudi 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. En réponse au 6 candidats président de la République en rapport avec le manque délibéré de transparence dans les processus actuels, la CENI rappelle qu'elle a depuis le début de ce cycle multiplié les activités en faveur des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Réaction contenue dans un communiqué de la centrale électorale parvenu à Radio Kapi. L'invité de ce journal est Gaby Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. À l'occasion de la célébration ce jeudi 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, il invite tous les professionnels des médias au strict respect de leur code d'éthique et de déontologie. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Mesdames, messieurs, bonjour. Au moins 523 cas d'attaques diverses contre la presse, dont 5 journalistes tués, près de 160 cas d'arrestation et plus de 130 journalistes et professionnels des médias victimes de menaces ou de violences physiques. Sans oublier les médias qui ont été attaqués, fermés ou des émissions interdites, soit 123 cas enregistrés. Sur le bilan dressé par le service de monitoring de l'ONG Journalistes en danger depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, Jeude le fait savoir dans son rapport intitulé « Bilan de la liberté de la presse sous le premier mandat du président Félix Tshisekedi » publié à l'occasion de la célébration ce jeudi 2 novembre de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Alors que s'annoncent de nouvelles séances politiques cruciales, notamment l'élection présidentielle, dans un climat de tension et de suspicions généralement hostiles à la liberté de la presse, Jeude considère que la sécurité des journalistes est l'une des clés essentielles de la réussite d'un processus fiable et transparent. D'autres détails avec vous grâce à Mzati Masanzi.
Dans son rapport 2023, Jeude fustige les promesses non tenues selon elle du président de la République et constate qu'aucune action d'envergure n'a été prise ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan sécuritaire pour rendre plus sûr l'exercice du métier des journalistes en dépit de l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse issue des États généraux de la communication et des médias qui n'a jamais été publiée au journal officiel plus de 8 mois après sa promulgation par le chef de l'État. Pour Jeude, les conséquences de ces promesses non tenues se traduisent par les assassinats, les menaces, agressions et arrestations des journalistes, les fermetures et pillages des médias enregistrés chaque année depuis son avènement au pouvoir, à savoir 85 cas en 2019, 116 en 2020, 110 en 2021, 124 en 2022 et 88 cas en 2023. Le rapport bilan de la liberté de la presse sous Félix Tshisekedi met également en exergue les cas des journalistes tués ou portés disparus, particulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC, en proie à la violence des groupes rebelles. Au moins 3 journalistes ont été tués au cours de l'année 2021 et un journaliste est porté disparu depuis décembre 2020 après avoir été enlevé par des miliciens, peut-on lire dans ces rapports.
Contacté pour avoir la réaction des autorités en rapport avec le rapport de Jeude, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a promis de réagir ultérieurement. Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Ici à Kinshasa, 22 journalistes ont été assassinés depuis 1994 jusqu'en 2021. L'Association congolaise des femmes de la presse écrite, ACOFEP, avec d'autres associations professionnelles des médias, plaide pour la reconnaissance de ces journalistes au rang des martyrs de la liberté de la presse. Ces organisations se sont ainsi exprimées hier mercredi au cours d'une cérémonie commémorant cette journée. Des détails avec Paul Matendo.
Parmi ces journalistes, Franck Ngeke Kangundu du quotidien La Référence Plus, Didas Namujimbo et Serge Maéché de Radio Okapi. Le président du comité des pilotages de ce plaidoyer appelle les professionnels de médias à se serrer le coude pour obtenir la reconnaissance de ces journalistes. Cyril Kilebapokames.
Tenons-nous la main dans la main et donnons une reconnaissance à tous ceux qui nous ont quittés dans l'exercice de leur liberté. Ceci n'est qu'un début.
L'argumentaire de ce plaidoyer a été remis au ministre des Médias par Grace Ngike, journaliste et représentante des orphelins des journalistes assassinés. Pour sa part, Patrick Muyaya promet de porter ce message à qui de droit.
L'argumentaire ne les respecte pas pour les ranger dans les tiroirs du ministère, mais nous allons nous assurer de faire parvenir le message à qui de droit au niveau du gouvernement, et nous allons nous assurer de donner suite les moments venus à l'argumentaire que nous avons bien reçu.
Parmi les invités à cette cérémonie, le ministre des Droits humains, Fabrice Puella, mais aussi Catherine Sangara, la veuve de Serge Maéché.
Et puis, parlant de l'assassinat de Serge Maéché des Radio Okapi, Catherine Sangara, sa veuve, affirme que jusqu'à ce jour, aucune justice équitable n'a été rendue. Entre-temps, les assassins, eux, vivent tranquillement chez eux. Elle a dit hier mercredi 1er novembre à Kinshasa, lors de la cérémonie de présentation de l'argumentaire du plaidoyer pour la reconnaissance des journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse. Une cérémonie organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, ACOFEP. Catherine Sangara est au micro de Paul Matendo.
Une justice équitable n'a jamais été rendue et les auteurs de ces crimes n'ont jamais été poursuivis. Ils vivent tranquillement chez eux. Entre-temps, les enfants sont en train de souffrir de la perte de leur papa, leurs parents et consorts. C'est pourquoi je loue cette initiative de l'association ACOFEP pour ces combats qu'ils sont en train de mener pour que, enfin, une reconnaissance leur soit rendue. Et ça sera un moment pour rendre hommage et que nous, victimes aussi, que nous nous sentions soulagés. Ça va nous apaiser. C'est pourquoi je demande à tous les acteurs concernés de prendre conscience et que ces combats puissent avoir un résultat positif.
Autre actualité, c'est le Nord Kivu où les combats se sont poursuivis hier mercredi dans la zone ouest des groupements Kibumba et Buhumba. Cela fait 5 jours que ces violents affrontements intermittents opposent les FARDC et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Les forces engagées font systématiquement recours à l'artillerie lourde des deux côtés, indiquent nos sources. Des détails avec Bernard Denyangui.
Depuis plusieurs jours, les rebelles du M23 tentent de déborder l'armée congolaise par le versant est du volcan Iragongo dans le parc de Virunga pour attaquer la ville de Goma ou occuper d'autres positions de l'armée, affirme le porte-parole du gouverneur militaire. La riposte de l'armée ne se fait pas attendre, dit le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, justifiant ce violent combat de ce mercredi au 5e jour de la reprise des hostilités dans la zone du parc ouest de Kibumba et Buumba. Ce mercredi, des tirs d'artillerie lourdes sont entendus, indiquent des sources dans la zone. Si les deux parties ne livrent pour le moment aucune information sur le bilan, plusieurs sources parlent des pertes énormes. Pendant ce temps, quelques centaines de voyageurs sont bloqués comme otages entre les deux positions avancées de l'armée congolaise vers Kanyamaoro au sud et celle de rebelles vers trois antennes à Kibumba au nord, en sachant que tout trafic est interrompu dans la zone. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
Je le disais au début de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante répond aussi candidat président de la République qui affirmait hier dans une déclaration commune que le processus électoral en cours est caractérisé par un manque délibéré de transparence. La CENI rappelle qu'elle a, depuis le début du cycle électoral en cours, multiplié des activités en faveur de la tenue des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Elle ajoute qu'elle a plusieurs fois prouvé son impartialité et son sens des justices et déplore le fait que certaines parties prenantes, au lieu d'apprécier ses efforts fournis pour tenir les délais constitutionnels, tentent de créer des tensions en vue de justifier une contestation future des résultats. D'autres détails dans ce condensé de Blaise Makassi rendu par Michel Kifindangoy.
Afin de répondre aux inquiétudes des 6 candidats présidents, la CENI promet d'afficher les listes définitives des électeurs dans chaque bureau de vote au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Les listes demeureront en place jusqu'au jour du vote, conformément à l'article 8 alinéa 4 de la loi électorale. La commission électorale rappelle qu'elle a mis en place, par souci de transparence, une cellule de gestion des projets et des marchés publics pour se conformer aux lois et règlements en la matière. Elle justifie également les retards enregistrés dans certaines opérations par des prolongations successives, notamment dans les opérations d'enrôlement des électeurs ainsi que des réceptions et traitements des candidatures accordées sur demande des partie prenante. La CENI se dit tout de même engagée à tenir les élections dans les délais légaux. Quant à la série des cartes d'électeurs à problème, elle affirme avoir déjà lancé l'opération de délivrance des duplicata dans ses antennes selon les conditions fixées par la loi. Toutefois, elle a décidé d'étendre cette opération au niveau des communes, secteurs et chefferies. Pour la CENI, ces défis logistiques, opérationnels et techniques ne devraient pas faire l'objet d'une récupération politique.
Par ailleurs, le président d'Ensemble pour la République salue l'attitude de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle dans le traitement des candidatures à l'élection présidentielle. Moïse Katumbi s'est ainsi exprimé hier mercredi au cours d'une adresse à la Nation. Par la même occasion, il appelle ces deux institutions à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image du pays. Moïse Katumbi ajoute que les élections ne devraient pas être à la base des divisions des filles et fils de la République. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
J'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous.
Signature hier mercredi à Kinshasa du contrat social du réseau Poda Congo par le docteur Denis Mukwege. Il s'agit du document qui contient les valeurs, idées et desiderata de la population recueillies à travers le pays dans le cadre de la campagne dénommée Congo Tolingi, entendez par là le Congo que nous voulons mener par cette structure citoyenne. Ainsi, le réseau Pona Congo appelle tous les candidats présidents et autres acteurs à signer aussi ces documents qui contiennent également des engagements qui sont appelés à respecter une fois arrivés dans les institutions du pays afin de répondre aux attentes réelles de la population. On écoute Divine Ouélé, membre de Pona Congo, au micro de Grâce Amzati Masanzi.
Le contrat social, je dirais, c'est tout simplement les besoins, les préoccupations et les priorités de tout citoyen congolais. Nous avons dit il y a plus de 60 ans que nous avons eu notre indépendance, mais nous constatons que les Congolais ne jouissent pas de notre cher et beau pays. Nous avons un cercle vicieux, nous avons le même mal qui revient plusieurs fois. C'est ainsi, après cette approche auprès de la population congolaise, nous avons eu à mener l'approche auprès des dirigeants pour les pousser à intégrer ces besoins dans leur projet de société. L'idée pour nous, c'est d'améliorer les choses. Nous invitons tous les candidats qui veulent apporter un réel changement de venir signer ces contrats sociaux pour rétablir cette confiance que nous avons perdue entre nous, la population congolaise, avec nos dirigeants. Dans la salle, nous avons dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Avec ces documents qu'ils vont signer, ce n'est pas par plaisir, mais c'est plutôt un engagement qu'ils prennent aujourd'hui au su et à vue de tous. Et nous, la population congolaise, de la société civile. Nous serons derrière eux avec ces documents en preuve, en appui, pour faire le contrôle citoyen de la mise en œuvre de ces engagements.
Les quartiers Kimwenza, Masangambila, Ngafani, dans les communes de Selembao et Mongafula de plus en plus désenclavé et rapproché du centre-ville. Les véhicules qui perdaient plus de 10 heures pour arriver en ville à partir de Mongafula font désormais moins d'une heure sur ce trajet. Depuis la réhabilitation et l'ouverture à la circulation des avenues Lengesa, Kimwenza et la route de Bel Air, les embouteillages monstres qui s'observaient sur l'avenue Bypass ont sensiblement diminué. Mais les habitants de cette partie de la ville plaident pour la finalisation des travaux de ces différentes routes.
Actualité internationale.
Au Kenya, le discours du roi Charles III sur les habits coloniaux ne fait pas l'unanimité. En visite dans ce pays jusqu'à demain vendredi, le souverain britannique a reconnu qu'il y avait des actes de violence abominables commis contre les Kenyans lors de la lutte pour l'indépendance. Parmi la société civile, ils étaient nombreux à attendre des engagements plus fermes. Guerre au Tigré, un an après l'accord de paix de Pretoria, de nombreuses questions en suspens. C'était le 2 novembre 2022, en Afrique du Sud. L'armée éthiopienne et les rebelles tigréens du TPLF mettaient fin à 2 ans de guerre civile. Après 1 an de paix, la situation restait tendue.
L'invité.
L'invité de ce journal est Gaby Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. À l'occasion de la célébration, ce jeudi 2 novembre, de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, il invite tous les professionnels des médias au strict respect de leur code d'éthique et de déontologie professionnelle afin de se protéger, surtout en cette période électorale caractérisée par des tensions politiques. Gaby Kouba s'entretient avec Grâce Hamzati Massanzi.
Gaby Kouba, bonjour.
Bonjour.
Que représente pour vous cette journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes?
Cette journée représente pour moi un moment historique et une date historique. C'est un combat qui est reconnu par les Nations Unies et nous, la corporation, au niveau international, nous portons le flambeau de cette lutte. Donc pour moi, c'est une grande avancée que toute une journée soit consacrée à la lutte contre l'impunité à l'égard des professionnels des médias parce que beaucoup d'entre nous ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier.
Alors, quel état des lieux faites-vous des abus ou autres crimes commis contre les journalistes ici en RDC?
Ici, en République démocratique du Congo, nous pouvons dire que le verre est à moitié vide et à moitié plein. L'état des lieux est que la liberté avance parce que nous sommes dans un état dit démocratique et les combats pour la liberté de la presse a été mené depuis des décennies au Congo. Donc, nous sommes parfois en avance par rapport aux autres pays qui connaissent encore la pensée unique dans les secteurs des médias. Mais nous ne pouvons pas non plus dire que tout est parfait dans la mesure où il y a des pesanteurs et il y a des habitudes qui font que la liberté de la presse est en train de patauger. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons, mais le combat pour la liberté est un combat perpétuel.
Est-ce que vous avez un bilan?
Oui, beaucoup de journalistes ont perdu la vie dans notre pays, dans l'exercice de leur métier. Ces 5 dernières années, nous avons en tout cas enregistré plusieurs cas d'assassinats, des arrestations, des intimidations contre les professionnels de la presse. Il y a même des cas d'emprisonnement, il y a des cas d'agression physique.
On parle de la fin de l'impunité, bien sûr, mais qu'est-ce qui est recommandé aux journalistes pour se mettre à l'abri des crimes ou autres abus dans l'exercice de leur métier?
Oui, ça c'est une excellente question. Je l'ai toujours souligné, un journaliste n'est pas un super-homme. Il n'est pas au-dessus des lois de la République. Et il a d'abord un document qui doit guider son agir, notamment notre code d'éthique et de déontologie professionnelle. Mais au-delà du code d'éthique et de déontologie professionnelle, tout journaliste, tout professionnel des médias est appelé au respect des lois de la République et du milieu dans lequel il exerce son métier. Et il doit avoir comme boussole son code d'éthique et de déontologie professionnelle qui montre ce qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter dans l'exercice de son métier.
Nous sommes dans les processus électoraux ici au pays et nous savons tous que les élections, c'est souvent les moments des tensions politiques. Quelles sont les mesures à prendre par les journalistes pour se mettre hors danger et surtout pour ne pas tomber dans les pièges des politiciens?
Oui, c'est vrai que la difficulté est énorme pendant la période électorale. La situation est déjà tendue. Elle le sera encore pendant la campagne électorale. Donc, avant, pendant et après les élections. Dans la mesure où chaque homme politique voudra se servir des médias, non pour donner l'information, mais pour ses dividendes politiques. Et aujourd'hui, la désinformation, l'intoxication, la diabolisation passée par les médias, et ils forment une sorte d'industrie au sein de la presse qui prospère. Et les journalistes, pour exercer leur métier correctement, doivent éviter de tomber dans ces pièges de désinformation, des manipulations de l'opinion publique. Nous, notre travail consiste à donner des informations. Les journalistes, c'est le factuel. Nous n'allons pas prendre parti. Les médias d'État, on considère que ce sont ceux qui sont au pouvoir, et les privés, ils ne sont pas créés dans l'optique des entreprises médiatiques, mais ils sont créés pour faire le contrepoint au pouvoir politique. Et ce qui fait que les combats politiques a quitté des milieux politiques vers la presse et vers les médias. Et aujourd'hui, ce sont les médias, malheureusement, qui portent les combats politiques des uns et des autres. Un juge est celui qui écoute les deux parties. On doit accorder la parole à toutes les parties et à toutes les tendances politiques de manière équitable. Et les journalistes doivent cesser de s'abriter derrière les hommes politiques pour agir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une certaine presse aujourd'hui sous l'étiquette d'analyste politique ou de casque politique. En réalité, ils font un travail de mercenariat politique à la place de l'information. Et cela tord le cou à la liberté de la presse. Donc, ce que je demande aux journalistes, c'est le respect du principe d'impartialité, le principe d'indépendance et de neutralité dans le traitement de l'information pour ne donner qu'une information objective à notre public.
Gabi Kouba, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Gabi Kouba, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Il s'entretenait avec Grâce Hamzati. Ce journal est présentement terminé. Il a été supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. À leur nom, je vous dis infiniment merci de l'avoir écouté.